was just announced. There was no collusion with Russia. The most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever.
Alors, évidemment, c'était la réaction à froid, on peut le dire ainsi, de Donald Trump au résumé du rapport du procureur spécial Robert Mueller, qui en est arrivé, semble-t-il, si on croit le résumé du rapport, qu'il n'y avait bel et bien pas de collusion entre des éléments russes pour intervenir pendant la campagne présidentielle 2016.
Oui, et tu commences avec le bémol le plus important, Paul, c'est-à-dire, en principe, présumant que ce qu'on a comme résumé est fiable, c'est un énorme bémol, c'est une victoire majeure pour Donald Trump. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un bémol? Parce que là, on a un résumé d'à peu près 4 pages, un peu moins de 4 pages, qui a été préparé par le procureur général des États-Unis, donc techniquement un membre du cabinet Trump qui a été nommé par le président, même s'il est censé, en principe, avoir une certaine indépendance par rapport au président. Donc, un résumé d'à peu près 4 pages d'un rapport qui en fait, on s'en doute, des dizaines, voire des centaines. Donc, si c'est vrai ce qui est contenu dans le résumé du rapport, le rapport Mueller serait construit en 2 parties principales. La première qui se serait penchée sur la collusion, toute la question de la collusion avec la Russie. La deuxième sur l'entrave à la justice qu'aurait commise ou non le président. Dans le premier cas, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a aucune indication qu'il y a eu collusion. Après tous ces mois, ces 22 mois d'enquête, on tranche de façon assez claire.
Et c'est ce qu'a crié et répété depuis tout le début Donald Trump lui-même. Et il en a fait presque un slogan, « No collusion, no collusion ». Il l'a crié pendant 2 ans.
Et c'est pour ça que ça le valide en énorme partie, qu'il s'agit non seulement d'une victoire légale pour son entourage, mais d'une victoire politique pour lui.
Parce que
personnelle, parce qu'à partir de maintenant, il a déjà commencé, il peut se revirer de bord en disant « Regardez ce que je vous ai dit. Ça fait 2 ans que je vous dis, que je vous répète, que je martèle, no collusion, no collusion. C'est un canular, c'est une fausse alarme. Et là, c'est le type qui était chargé d'enquêter sur moi, sur mon entourage, qui vous le dit très clairement. » Et cette matraque-là, Paul, Donald Trump va pouvoir l'utiliser contre les médias également. Parce que quand tu regardes la quantité, seulement la quantité de couverture médiatique dans les médias majeurs américains qui a été dédiée à toute l'affaire de la collusion avec la Russie depuis 2 ans, Donald Trump est drôlement bien placé maintenant pour dire « Quand je vous dis qu'il propage des fausses nouvelles, ben là, en voilà un sacré bon exemple. »
Et ça a déjà commencé, puisque la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, a déjà commencé à pourfendre les médias suite à cette publication du résumé du rapport Mueller.
Et ça n'arrêtera pas. C'est juste trop payant, trop juteux en bon français, pour le président et son équipe pour ne pas être utilisé de la sorte.
Le procureur spécial aurait dit déjà il y a 3 semaines au département de la justice qu'il n'en arrivait pas non plus à des conclusions suite à l'entrave à la justice dont vous venez de parler.
Oui.
Alors, ça veut dire qu'il y a un flou quand même, mais beaucoup moins flou, c'est la question de la collusion.
La collusion, on s'entend, là, du moins de la perspective de l'enquête Mueller, c'est réglé.
C'est ce qui pesait le plus.
C'est ce qui pesait le plus. Sur la question, par contre, de l'entrave à la justice, cette question-là, on le rappelle pour les gens qui nous écoutent, là, ça a été lancé suite au congédiement de James Comey. On se demandait si le président avait commis une entrave à la justice en congédiant de la sorte l'ex-directeur du FBI. Et là-dessus, le rapport est beaucoup moins clair, ou semble, encore une fois, selon le résumé, être beaucoup moins clair. Ce que M. Mueller aurait fait dans le rapport, ça aurait été de dire, écoutez, d'un côté, voici des arguments raisonnables qui pouvaient être avancés par des personnes raisonnables qui arriveraient à la conclusion que le président a commis l'entrave à la justice. Voici de l'autre côté des arguments raisonnables auxquels peuvent arriver des personnes raisonnables selon lesquels le président n'a pas commis l'entrave à la justice. Je laisse le procureur général des États-Unis décider ce qu'il veut faire avec ça, s'il veut faire quelque chose avec ça, mais le rapport ne va pas plus loin que ça. Donc, là-dessus, Donald Trump a tort, et ça, il faut le dire très clairement, a tort de dire, comme il l'a fait hier devant les caméras, qu'il était totalement exonéré. Parce que sur la question de l'entrave à la justice, il n'est pas accusé de quoi que ce soit, mais il ne serait pas exonéré non plus.
Alors, autre bonne nouvelle, on dit souvent qu'une bonne nouvelle en attire une autre, ou n'arrive jamais sans une autre bonne nouvelle. Michael Avenatti, l'avocat qui compte parmi les principaux détracteurs du président Donald Trump, je vous rappelle que c'est l'avocat qui s'est fait connaître en représentant l'actrice de film porno Stormy Daniels lorsqu'elle a poursuivi M. Trump, ben c'est lui maintenant qui est accusé d'extorsion et de fraude.
En effet, une histoire assez rocambolesque. Michael Avenatti, qui a été à la fois accusé et inculpé aujourd'hui, aurait menacé la compagnie Nike, évidemment, très célèbre compagnie, la semaine dernière, de sortir en conférence de presse et essentiellement de salir sa réputation si elle ne le payait pas, lui et un de ses clients, une somme qu'on n'a pas dévoilée, mais qui serait dans les millions de dollars. Nike s'est retourné de bord et a dit « c'est pas vrai qu'on va se faire avoir par ce type-là, cette espèce de charlatan ». Et à peine quelques jours plus tard, c'est Michael Avenatti qui est accusé de façon très claire de tentative d'extorsion.
Dans deux États, d'ailleurs.
Et dans deux États. Et on parle aussi d'un type qui s'en était quand même assez bien sorti il y a quelques mois. Ça fait même pas six mois qu'il avait été impliqué dans une histoire de violence conjugale, avait eu aucune espèce de conséquence légale. Et c'est aussi le même type qui avait, je dirais, introduit une espèce d'histoire complètement rocambolesque dans la controverse de Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, évidemment, qui avait été accusé par deux femmes d'inconduite sexuelle. Michael Avenatti est arrivé comme un espèce de chien dans un jeu de quilles dans cette affaire-là, en amenant une troisième femme qui avait une histoire qui était, disons-le, assez difficile à croire, je le dis de façon très conservatrice, et encore une fois, n'avait payé aucun prix pour ça. Eh bien, les choses changent aujourd'hui pour M. Avenatti.
Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
À demain.
Au retour, une entrevue avec l'avocat d'Edward Snowden, Robert Thibault. Il dit être toujours en contact avec son client, qui vit en exil, bien sûr, à Moscou.